Oui, nous démarrons donc, je crois que c'est le cours numéro 7, c'est ça? Il me semble, donc on passe dans la deuxième moitié de... C'est la deuxième mi-temps en fait. Du coup, c'est la deuxième mi-temps. Donc ce soir, je vais juste voir deux choses courtes sur Romain que j'ai pas vu la semaine dernière et que j'avais envie quand même de compléter vite fait. Et ensuite, eh bien, on tâchera de prendre soin des deux lettres aux Corinthiens. Et puis nous verrons les semaines à venir de se débrouiller, de couvrir l'ensemble du reste du Nouveau Testament. Voilà, Seigneur Jésus, on veut te remettre cette soirée, on veut te prier pour secours, on te prie pour ta présence, que tu remplisses ma bouche et qu'il y ait ce que tu veux pour chacun de nous ce soir et que ça puisse nous parler, nous encourager, nous édifier et nous expliquer les choses, Seigneur. Amen. Donc oui, ce que je voulais voir en Romains, il y a juste deux petits passages. Dans le même chapitre, il y a deux fois deux versets par rapport au but de la loi. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on dit généralement, on peut se dire, la loi, elle sert à quoi, en fait, hein, par exemple. Alors, on verra dans d'autres livres de Paul, je crois que si je ne me trompe pas, c'est en Galates. Il est aussi dit quelque chose, oui, en Galates, il est aussi dit quelque chose par rapport au but de la loi. Si je ne me trompe pas, en Timothée, il y a aussi un commentaire qui est fait sur à quoi sert la loi ou pour qui elle est adressée. Mais on va s'en tenir à ces juste quatre petits versets que nous avons en Romains, ça nous suffira pour ce soir. Et puis nous irons voir autre chose. Donc en Romains chapitre 3, donc on semble revenir en arrière, mais ne vous inquiétez pas, on ne revient pas en arrière. Voilà, on va juste voir ça. Au verset 19 et 20 et au verset 27-28. Donc 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc là, ce qui nous intéresse à travers ces deux versets, c'est qu'est-ce qu'on a à ressortir sur ce qu'est le but de la loi. Et première chose qu'on peut déjà se dire, c'est que nous, dans l'époque actuelle, qui dure depuis un petit moment quand même, dans l'époque de l'Église, de la grâce, ben, nous, manifestement, nous ne sommes pas sous la loi. Ça nous est dit à d'autres endroits. Et puis bon, par rapport à l'explication que je vous donne assez régulièrement sur les dispensations. Donc nous ne sommes pas sous, on va dire, un fonctionnement de loi, contrairement à ce qui était le cas pour Israël dans l'Ancien Testament. Et par conséquent, ici, ben, tout simplement dans ce qui nous est dit ici, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Donc, a priori, en tout cas, de prime abord, ça ne nous concerne pas. Et en même temps, il est dit quelque chose par rapport à la loi qui est assez intéressant, parce que il y a la loi de Moïse, ce à quoi il fait manifestement référence ici, mais il y a quelque part toutes les lois que nous mettons en fait nous-mêmes. Parce que finalement, avant la loi de Moïse, les hommes avaient néanmoins une conscience, et je pense qu'ils devaient vivre un tant soit peu la culpabilité par rapport à des choses qu'ils faisaient qui ne devaient pas être bien selon la conscience de Dieu. Et après la loi, donc nous, ben, il n'y a pas la loi, mais une fois que je vous ai dit qu'on n'est plus sous la loi, que vous êtes sous la grâce, ça n'empêche pas que des problèmes de culpabilité, de machin, de trucs, on en est bourré, quoi. Et pourquoi on en est bourré? Parce que de toute façon, le principe, vous savez, la semaine dernière, on a parlé des deux sphères, hein, la sphère du premier Adam et la sphère du deuxième Adam. Ben, la sphère du premier Adam, de toute façon, on va fonctionner dans un système où il va y avoir une loi. Donc, dans l'Ancien Testament, très bien, mais c'était celle que Dieu a donnée à Moïse. Mais après, ben, même si ce n'est pas celle de Moïse, ça va être une autre. Ça va être la loi du pays. Il y a des gens qui sont hyper scrupuleux par rapport, et ils n'ont pas forcément tort absolument, mais en tout cas, c'est juste plutôt dans le principe de fonctionnement que ça peut être embêtant, très scrupuleux par rapport aux lois dans un pays, qu'elles soient bien, qu'elles ne soient pas bien, ou peu importe. Et puis, même quand ce n'est pas ça, de toute façon, on se crée des lois. Puisque par exemple, si vous avez relu à la maison Romains chapitre 7, un peu le conflit intérieur de l'apôtre Paul, mais donc notre conflit à nous entre la chair et l'esprit, qu'est-ce qui se passe? il dit tout simplement que finalement, je suis une loi à moi-même que je n'arrive pas à respecter et qui me met dans l'embarras. Alors que je pourrais dire, mais attends, si on ne m'impose pas de loi, moi, je n'ai pas de loi à moi-même, j'avance comme j'avance, et puis il se passe ce qui se passe, et je m'en fiche. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'automatiquement, il y a une forme de loi qui se reconstitue en nous et qui est créée ben, par rapport aux relations vis-à-vis des autres, par rapport à des gens qui sont au-dessus de nous, et même simplement à l'intérieur de nous, avec quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur, qui est la conscience. Et cette conscience, certes, elle n'est pas correcte, en tout cas, elle n'est pas toujours correcte, elle est altérée, elle est changée, elle est entravée ou elle est modifiée par le péché, mais du coup, elle fonctionne quand même sur un principe de loi. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça mérite un bonbon et ça mérite une tape sur les doigts. Et après, les modalités, en fin de compte, presque, on s'en fiche. Par rapport à nos problèmes intérieurs, je veux dire, on s'en fiche. Par rapport à vivre ensemble, c'est un autre problème. Donc ici, par contre, ce qui est intéressant qu'il dit aussi ici, par rapport à la loi, en l'occurrence de Moïse, pour comprendre un peu pourquoi elle est donnée quand même, elle était donnée du moins, donc elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il y a un but qui est que tout le monde réalise qu'il est coupable devant Dieu. Sauf que Dieu, lui, ne s'arrête pas là. Et que nous, quand on prend juste la loi Moïse ou une autre, on s'arrête là. Et comme on s'arrête là, on ne peut vivre que quelque chose qui s'appelle la mort. Parce que nous sommes en défaut vis-à-vis de cela. Ce qui fait que je vais vous faire une application dans l'Église. On n'est plus sous la loi. On est dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de problème. Sauf que, une, j'ai ma conscience. Et deux, dans l'Église, il y a quand même des choses qui nous sont dites dans le Nouveau Testament qui sont bien et d'autres qui ne sont pas bien. Des choses à pratiquer et des choses à ne pas pratiquer. Des choses à encourager. Ou... Voilà. Et donc, de toute façon, je reconstruis ce fonctionnement de loi. Et je dirais que même plus je connais avec précision, finalement, la Bible et ce que Dieu, quelque part, considère comme étant bien ou pas bien, ceci, cela, ou ce que Dieu définit comme étant un péché ou le résultant, ou des péchés plutôt, finalement, j'arrive avec une plus grande précision, une plus grande certitude au fait que ma bouche, elle doit être fermée parce que je suis coupable. Et le problème, c'est quand le message il s'arrête là. C'est pour ça qu'on a besoin de prêcher aussi d'autres choses dans la Bible, et notamment la grâce de Dieu, l'œuvre accomplie, le fait que nous sommes une nouvelle création, le fait que le Saint-Esprit il habite en nous, le fait qu'il y a une autre vie à vivre, parce que sinon, on va être coupable par rapport à ça. Et vous savez, des fois, ça va être un peu subtil. Ça va être, par exemple, je sais pas, même vous avez dû vous l'entendre dire et entendre les autres le dire. Ah ben de toute façon on est pécheur. Ah ben de toute façon ça j'y arrive pas. Moi je suis comme ça, c'est mon tempérament. Mais de toute façon on sait bien que la Bible on n'arrive pas à être rempli du Saint-Esprit tout le temps. On le sait. Hein. Donc ça veut dire que ça justifie la bêtise que tu viens de me dire, le comportement que tu as là. Ou ceci ou cela. Alors que non, ça ne justifie pas. Parce que Dieu dit que je vous ai donné des capacités. Et en même temps, oui, nous savons que nous ne sommes pas remplis de l'Esprit tout le temps. Oui, nous savons que nous allons tomber tous les jours et plusieurs fois par jour. Oui, on le sait. On le sait, mais ça, ce n'est pas, pas le moteur de ma vie, ça. Je le sais. Maintenant, je dois aussi savoir à la même mesure que j'ai le Saint-Esprit, j'ai une nouvelle nature, que j'ai de nouvelles ressources, que je peux prier, que je peux demander de l'aide à Dieu, que je peux faire des choix, que je peux être aidé par Dieu dans mes choix, que, etc., je veux dire, avec de la peine, de la difficulté, avec tout ce que vous voulez, mais voilà, on ne va pas juste s'arrêter à ça. Verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc le but de la loi est d'amener à une connaissance du péché. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce qu'il soulève ici, l'apôtre Paul, parce que de toute façon, sans qu'il y ait la loi, l'homme, il savait qu'il était pécheur. Et l'homme, il savait qu'il était en faux devant Dieu. Puisque Alors bon, on pourra un peu chipoter, mais dans le jardin d'Éden, quand ils ont mangé du fruit, ils sont de suite allés se cacher dans les fourrés. Et il n'y avait pas de loi. Alors on pourrait me dire, et c'est pas complètement faux, s'il y avait une loi, ce que Dieu lui a dit. C'est vrai, quelque part, c'est un peu vrai. Mais je veux dire, il n'y avait pas un grand barème qui était mis en place avec quelque chose de très précis. Donc juste un commandement, une chose, ça a suffi pour qu'ils se délitent complètement, quoi, Adam et Ève. Hein ? Alors, l'autre verset qui est donc un peu plus loin dans le chapitre, 27-28, « Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Donc là, il est clair que c'est une rhétorique. Je veux dire, c'est quoi la loi de la foi ? Il n'en reparle pas ailleurs, je veux dire. Il est juste en train d'expliquer, de jouer sur le... Enfin, de jouer. D'utiliser un verbiage, une manière de parler autour de la loi pour expliquer que ça ne peut pas être le fonctionnement pour atteindre Dieu, pour être acceptable aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai montré dans les chapitres avant et je vais le montrer dans les chapitres suivants, on l'a vu la semaine dernière, que c'est par le principe de la foi. Hein ? Donc ça, c'est ce qui nous est donné ici. Maintenant, on va voir autre chose dans Romains un peu plus loin. On va voir quelque chose quand même qui est assez intéressant, néanmoins. Donc je vous avais dit que chapitres 9 et 11, notamment, ça parlait de l'élection d'Israël, de la destinée un peu d'Israël, en tout cas dans une certaine partie. Et donc je vous ai dit qu'il y avait des choses qui étaient dites et qui ne pouvaient pas être prises comme il semblait être, parce que le thème était la justification et le thème n'était pas de dire est-ce que les promesses à Israël, elles continuent ou ceci ou cela. Et donc au chapitre 11, c'est intéressant parce que je vais vous lire un petit passage de 5 versets. Et il y a un verset qui est très connu et qui est utilisé en général pour autre chose. Et c'est très intéressant de le voir en fait dans ce contexte-là. Donc on va lire chapitre 11, versets 27 à 32. Donc il est dit « Et ce sera mon alliance avec eux, il parle d'Israël, lorsque j'ôterai leurs péchés, en ce qui concerne l'Évangile. » Et quelque part, ça résume ce que je vous ai dit la semaine dernière par rapport à Israël, aux promesses qui sont encore pour eux alors qu'on est passé à autre chose. Enfin, qu'on est passé en tout cas temporairement à autre chose. Très intéressant. En ce qui concerne l'Évangile, donc, entre autres, donc, oui, c'est ce que je disais la semaine dernière, la justification, etc., ils sont ennemis à cause de vous. C'est-à-dire qu'en fait, l'Évangile, il est venu pour être donné à tous. Donc, eux... en tant qu'entité et se croyant être le peuple de Dieu unique, etc., vis-à-vis de cette annonce de l'Évangile, ils sont ennemis de l'Évangile, à cause de nous, païens, qui avons accès, ce qui n'était pas concevable pour eux. Ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, c'est-à-dire le fait que Dieu fait des choix, et je ne parle pas nécessairement à salut, parce que ce n'est pas le cas, mais qui fait des choix, il fait le choix que vous avez un don, un talent, un appel, un ceci, un cela, ou alors il a choisi Israël comme peuple, et pourquoi il n'a pas choisi un autre ? Pourquoi il a choisi Abraham, pourquoi il n'a pas choisi un autre ? Eh bien, j'en sais rien. Mais il a fait comme ça, en tout cas. Donc ici, en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. OK ? Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance donc à Israël, vous avez maintenant obtenu miséricorde, c'est-à-dire vous avez obtenu l'Évangile, ou en tout cas accès à l'Évangile. De même, ils ont maintenant, eux, donc Israël, désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors on s'arrêtera un peu sur le dernier verset, mais j'ai des choses à dire un peu avant. Je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que je viens de lire. Mais en fait, c'est extrêmement logique ce que dit Paul ici. Alors déjà, le verset que je dis qui est connu et qui est utilisé pour autre chose, c'est le verset 29, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Et ça, en général, on va en parler de quoi ? D'un chrétien qui tombe, qui machin, qui ceci, qui cela... Ou un évangéliste, par exemple, ou quelqu'un qui a un don d'évangéliste et puis qui, qui va plus dans une église, mais voilà, on va dire, il a quand même le don, Dieu ne le retire pas, et en fait, même s'il n'est même pas dans une église, il va quand même continuer d'évangéliser, et Dieu va faire porter des fruits. Ok, c'est vrai, sauf qu'ici, on ne parle pas de ça, en fait. Ce verset, en fait, il ne parle pas de ça. Il parle d'Israël, et il parle de l'Israël terrestre. Et donc, là, si vous voulez, l'histoire... Donc des amillénaristes, de dire que les promesses à l'Israël terrestre sont passées dans l'Église, là, il est en train d'expliquer de manière beaucoup plus claire que d'autres versets qui peuvent faire sous-entendre certaines choses, que ce n'est pas le cas. Puisqu'il est en train de dire, comme je l'ai dit moi-même la semaine dernière, vis-à-vis de l'Évangile, ils sont ennemis parce qu'ils ont désobéi. Vis-à-vis de l'élection de Dieu, ils sont aimés à cause de leur père, donc à cause de quoi? De la nation physique, pas à cause de je sais pas quoi. Ok? Et donc, et il rajoute de surcroît, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc, il les a élus comme, en tant que généralité de peuple Israël, il a décidé que c'était le peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans le temps de l'Évangile, il ouvre l'accès à tout le monde et pour le salut, etc., d'une manière, un accès plus accessible, si vous voulez, que dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, ça passait par Israël, en fait, quelque part. C'était par la foi, mais quelque part, ça passait par Israël. Après, si des gens n'avaient pas du tout de connaissance d'Israël, Dieu faisait ce qu'il avait à faire. Mais je veux dire, sinon, les voisins, c'était en devenant des craignants Dieu, quelque part, qu'ils devenaient des croyants. Hein ? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est l'Église, c'est ouvert à tout le monde. Et dans l'Église, il y a aussi Israël, en fait, s'ils veulent rentrer. Et c'est ce qu'il dit à la fin. Il dit donc, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Donc, parce qu'eux, ils ont échoué, Dieu a ouvert l'Évangile à tous. Et cet évangile à tous, cette miséricorde qui a été ouverte, donc de même au verset 31, ils ont maintenant désobéi afin que la miséricorde qui vous a été faite, donc aux païens, ils obtiennent aussi miséricorde, eux, Israël en fait. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et ça, c'est intéressant, ce verset, ce dernier verset. Je le redis. Donc, ce que j'ai à expliquer par rapport à Israël, les païens, l'évangile, c'est bon. Je pense que là, je vous l'ai expliqué. Je vous en ai remis une couche ripolaine. C'est bon. On va pas, voilà, je ne vais pas en rajouter plus ici, ça va. Par contre, le dernier verset, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Ça, c'est fondamental, même pour nous, aujourd'hui. Par rapport notamment au principe de la loi et au principe de la foi. C'est-à-dire que, en fait, maintenant on est sous la grâce, à quoi ça sert la loi, à quoi ça sert de savoir qu'est-ce que Dieu veut ou Dieu veut pas? À quoi ça sert ça En fait, on a le Saint-Esprit, donc ça devrait être naturel, ça devrait couler comme ça. On ne devrait même pas avoir à réfléchir, et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à quoi, justement, cette loi qui nous accuse et qui nous rend coupables, encore aujourd'hui, dans nos consciences, ça sert à ça. C'est que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pas pour s'amuser, pas pour dire vous êtes tous des nullos et puis à circuler. Non, non. Parce que Dieu, en enfermant tout le monde dans la désobéissance, ça lui permet à lui de faire miséricorde à tous. C'est ce qui nous est dit ici. Ce qui fait que moi, en fait, j'ai besoin de vivre de la miséricorde de Dieu. Et pour ce faire, j'ai besoin de savoir que je suis dans la désobéissance. Plutôt que d'essayer de racheter ma désobéissance par mes bouts d'obéissance. Qui sont bien, qui sont à faire, qui sont à rechercher et vers lesquels nous devons tendre, je veux dire. Si on sait qu'une chose est bien, tendons à la faire. Mais tendons à la faire pas pour acheter ma désobéissance, pour fonctionner avec Dieu et pour connaître Dieu. Vous comprenez? Et là, la différence, l'acte est le même, mais la motivation n'est pas du tout la même. Et dans le deuxième cas, je tends à faire les choses bien en étant conscient que je suis enfermé dans la désobéissance, mais ce n'est pas un problème parce que ça me permet de goûter à la miséricorde de Dieu. Et donc, moi, je continue de tendre à aller vers Dieu et quelque part, je ne me préoccupe pas de ma désobéissance, de mes péchés, dans la mesure, bah, après, comme on vit les uns et les autres, à un moment donné, si on te dit de pardonner, de demander pardon, de ceci, de cela, bon, ça rentre dans le fonctionnement. Donc évidemment que si on fait juste rien et on est seul sur la terre, c'est sûr qu'on va avoir d'abord des problèmes avec les autres. Et ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous fonctionnons. Mais justement, par rapport à nous, à l'intérieur, tendons à faire ce que nous avons à faire, sachant que nous allons avoir de la désobéissance, de toute façon, on va le voir tous les jours, mais, en fait, quelque part, ne soyons pas attristés par cette désobéissance. Utilisons-la comme un tremplin pour trouver la communion dans la miséricorde de Dieu. Ok. Je tombe, j'ai encore péché, j'ai encore dit ce qu'il ne fallait pas dire, j'ai encore fait ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai encore oublié ce qu'il ne fallait pas oublier. Ok, c'est un fait, je le reconnais, je suis d'accord avec toi. Je viens vers Dieu, merci pour ta miséricorde. Je suis d'accord avec toi sur mon péché. Je te demande de m'aider à quand même vivre un peu autre chose, parce que le but n'est pas de rester le nez dans la boue non plus. Voilà, et après... je me relève et je continue d'essayer de faire avec lui ce que j'ai à faire. Vous comprenez ? Parce que sinon, celui qui est sous le principe de la loi, peu importe qu'est-ce qu'on met derrière la loi, il va essayer de faire la même chose que nous, mais pour se racheter. Et le problème que soulève en permanence Paul, c'est ça, c'est vous n'allez pas vous racheter avec la loi. Quelle que soit la définition de la loi que vous mettiez, quel que soit le succès que vous avez dans la loi, et je dirais que, pour preuve, il le dit lui-même, il le dit quelque part, moi, j'étais le champion de la loi. Il le dit à un moment donné, je crois en Galate. Il dit, en fait, moi, j'étais le champion de la loi, je les écrasais tous. Mais à un moment donné, sur le chemin de Damas, il a fallu que Jésus-Christ y vienne, que je tombe de mon âne ou de mon cheval, là, que je devienne aveugle et que là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est contre moi que tu fais du mal. Je suis Jésus. C'est contre moi que tu fais du mal. Ah, donc en fait, le Seigneur que je crois suivre, en fait, c'est toi, mais en fait, je suis en train de persécuter celui que je pense être mon Seigneur. Donc je me suis un peu trompé. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et Dieu, à ce moment-là, par exemple, pour juste prendre son exemple à lui, il ne lui demande pas de faire quelque chose pour racheter ce qu'il a pu faire. Non. Il lui demande, voilà, l'étape d'après. Il va aller voir, comment il s'appelle ? Corneille aussi, je crois, celui-là. Oui, c'est Corneille, je crois. C'est pas chez Corneille qu'il va ensuite, qui lui enlève les écailles des yeux ? Ananias, oui. Non. Corneille, c'est avec Pierre. Bon, voilà, peu importe. En tout cas, le principe, du coup, il est celui-là. Voilà. Donc, on fait ça, et... est-ce que je dis ça ? Mais ça, c'est pas dans Romains, donc... ce que je dis. Je le dis quand même, parce que c'est sur le sujet de ce que je disais là en Romains 11. C'est pas grave, on va le lire, il y a deux petits versets. C'est à la fin de Galates 6. Galates, on en reparlera sur d'autres sujets la prochaine fois. Mais juste à la fin de Galates, lettre Galates, chapitre 6, il y a une formulation justement qui va très bien pour les amillénaristes. Mais je vais mettre le « why » une fois de plus. Donc Galates 6, verset 15 et 16. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Donc là, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la même chose. C'est un peu toujours, le leitmotiv qui se retrouve en fond d'écran des lettres de Paul, hein, en général. Enfin, en tout cas, des lettres doctrinales comme Romains, Galates, Éphésiens, Colossiens, etc. Donc, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et ensuite, c'est une espèce, pas de salutation, de conclusion, je ne sais pas trop quoi, mais c'est intéressant. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. La règle, c'est quoi ? C'est que d'être circoncis ou incirconcis ne sert à rien. La règle, c'est que ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. D'accord ? Donc, paix et miséricorde sur ceux qui suivent cette règle. Et sur l'Israël de Dieu. Donc, là, les amis peuvent dire, l'Israël de Dieu, c'est l'Église. D'accord. Mais moi, si je lis, si vous lisez correctement, non, l'Israël de Dieu, c'est Israël. Parce que c'est qui, sinon, ceux qui sont versés au-dessus? C'est tous. Donc l'Israël de Dieu, c'est quoi? C'est l'Israël de l'Ancien Testament. Alors ils ont le droit de dire autre chose, mais moi, ça me paraît cohérent que c'est le cas. Voilà. Et donc voilà, donc c'était une petite bricole qui se rajoutait à ce qu'on avait là. Donc Romains, on va fermer la page. Galates, on verra plus tard. Et là maintenant, on va commencer avec Corinthiens. Et donc pour Corinthiens, on va vous donner quelques petites généralités. Alors vous inquiétez pas. Des fois, je vais juste lire, donc j'aurai pas le même timbre de voix. Mais c'est pas grave. Et ensuite, on ira voir quelques passages et on va aller comme ça jusqu'à l'issue de la soirée. Donc, quel est l'auteur de 1 Corinthiens, tout comme de 2 Corinthiens d'ailleurs? C'est l'apôtre Paul, évidemment. Là, il n'y a pas trop de discussion non plus sur l'auteur. Il y en a des fois sur certains livres. Ben, là, ce n'est pas forcément le cas. Donc, à qui il écrit? Ben, il écrit à l'église de Corinthe que lui-même a initiée. Et donc, ce qui est un petit peu intéressant, je vais vous dire certaines choses que j'ai là sous les yeux. Qu'est-ce que cette ville de Corinthe, en fait? Et qu'est-ce que cette ville de Corinthe à l'époque? Alors déjà, c'est une ville un petit peu orgueuse, dans le sens que, si je ne me trompe pas, elle a été détruite complètement et reconstruite complètement. Donc, ils avaient un peu la fierté déjà d'être repartis, d'être redevenus une grande ville en repartant de zéro, quoi, si on peut dire. Donc, Corinthe était la capitale de l'Achaïe, partie méridionale de la Grèce, donc au sud de la Grèce. Et donc, c'est un des principaux centres de la civilisation grecque. Donc, c'est un endroit où le commerce passait un peu bien, d'ailleurs. Les précisions géographiques et tout, je ne suis pas fort et ça va pas nous avancer beaucoup. Donc, voilà, c'est ça. Elle a été incendiée en 146 avant Jésus-Christ, mais elle a été rebâtie par Jules César en 44 avant Jésus-Christ, donc un siècle plus tard. Et donc, il y a un peu cet orgueil aussi que, des cendres, on a refait à nouveau une grande ville. Donc, elle se relève rapidement de ses ruines. Et donc, au temps de l'apôtre Paul, elle comptait près de 700 000 habitants. Donc, aujourd'hui, 700 000 habitants, vous allez dire, bon, allez, je ne sais pas, c'est Montpellier. Ouais, d'accord, mais enfin, à l'époque, on est à l'époque antique, il n'y a pas 7 milliards d'habitants sur la Terre. Donc, forcément, 700 000 habitants, ça fait beaucoup à l'époque. Voilà. Ça c'est quand même aussi intéressant, je vous le dis là, parce que c'est écrit, mais aussi c'est intéressant des fois d'y penser, parce que la Bible, enfin, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est quand même écrit, c'est pas écrit au XXe siècle, quoi, ni au XXIe. Et ce que je veux dire, c'est que là, il y avait 700 000 habitants, et, dont 400 000 esclaves. Donc ça, je veux dire, nous, dans notre conception, dans la manière de voir une ville, la civilisation, c'est pas comme ça, quoi. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand Paul, dans certaines lettres, il va s'adresser à des chrétiens qui sont on va dire, peut-être des chefs d'entreprise, mais qui sont surtout des maîtres et qui ont des esclaves, et ces esclaves sont des fois dans l'Église, on comprend un peu mieux. 700 000 habitants, 400 000 esclaves, quoi. On n'est pas du tout dans le contexte que nous connaissons depuis que nous sommes tout petits et qu'on peut même connaître en étudiant l'histoire, par exemple, de France dans les siècles passés. Donc, c'est intéressant, des fois, d'avoir des choses comme ça en tête, quand même. Donc, c'est 400 000 esclaves, donc des colons romains et des juifs qui sont attirés par le commerce. Voilà. Alors, oui, une chose qui est intéressante par rapport à cette... Donc, évidemment, c'est un centre également religieux. À l'époque, dans l'Antiquité, c'est donc une forme de polythéisme, puisqu'on sait bien les dieux grecs et les dieux romains, ils sont nombreux, ce sont des demi-dieux, etc. Et par contre, il y a une chose qui est assez intéressante à cet endroit-là, c'est par rapport... Il y a deux choses intéressantes. Donc, il y a des temples, notamment, par exemple, le temple d'Aphrodite. Donc, Aphrodite, c'est la Vénus grecque. Elle comptait 1000. Alors ça, c'est intéressant pour la suite des choses que l'on voit dans la lettre aux Corinthiens. Donc Aphrodite, qui est donc la Vénus grecque, elle comptait 1000 prêtresses livrées à la prostitution sacrée. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on regardera rapidement, par exemple, dans 1 Corinthiens 13, et par rapport notamment à cette histoire de parler en langue, et on verra peut-être un petit peu sur certains endroits, quand vous lisez notamment 1 Corinthiens, par endroit, vous vous dites, écoutez, moi, c'est pas compliqué, l'apôtre Paul, c'était misogyne. Point. C'était misogyne. Les femmes n'ont pas le droit de parler, elles doivent être voilées, patin, couffin, machin comme ça. Sauf que le contexte, c'est que il faut voir le contexte dans lequel il parle. Une, il n'est pas là tous les dimanches. Il écrit trois lettres, la première que nous n'avons pas, et les deux suivantes qui sont là. Puisqu'en fait, 1 Corinthien, c'est 2 Corinthiens, et 2 Corinthiens, c'est 3 Corinthiens. Sauf que le vrai 1 Corinthien, on ne l'a pas. On l'en déduit de la première lettre. Par rapport aux choses qu'il dit, on comprend qu'il y a eu une lettre précédemment qui a été écrite. Et il fait il fait trois voyages à Corinthe, mais il n'y en a que deux qui ont été effectués quand il écrit 1 et 2 Corinthiens. Le troisième viendra après. Bon, peu importe. Donc, juste pour vous dire que là-dedans, en fait, ça veut dire quoi ? Qu'il écrit à une église qu'il a démarrée, lui, dans laquelle il est resté, je crois, 5 ans. Il n'y reste pas. Après, il apprend qu'il y a des nouvelles qui ne sont pas forcément géniales dans l'église, de fonctionnement. En même temps, on est bien d'accord que la lettre aux Corinthiens, que ce soit la première ou la deuxième, mais restons sur la première, c'est pas un traité de théologie, c'est pas un livre de 400 pages que vous allez acheter à la FNAC, c'est une lettre à une église, à l'époque de l'Antiquité. Okay ? Donc ce qui veut dire que, quelque part, on est là, on lit, on dit « purée, mais qu'est-ce qu'il dit ?» et tout, et tout. On comprend pas trop le contexte de l'église, de le nanana. Et comme ce n'est pas un bouquin de 100 pages, il n'explique pas tout ce qu'il dit, parce que c'est une lettre, donc il s'adresse à des gens qui, eux, comprennent ce qu'il dit. Mais nous, par contre, on n'est pas dans l'église de Corinthe il y a 2000 ans. Donc nous, on n'est pas trop conscients exactement de ce qui se passait, sauf les bribes que nous avons dans Actes, et que l'on comprend de ce que lui, il écrit là, en fait. Vous comprenez ? Donc je dis ça pourquoi ? Parce que du coup, il y avait effectivement les idolâtries, les prêtresses et machin, mais justement, il y avait des prêtresses qui pratiquaient la prostitution sacrée. Et les prêtresses, notamment, elles pratiquaient notamment en termes de elles pratiquaient quelque part le transe, le fait d'être en transe et de parler aux dieux et aux divinités. Et en fait, ça ressemblait, ou c'était, si vous voulez, ce qu'eux pratiquaient ensuite dans l'Église, le parler en langue. Vous comprenez ? Et je vais vous le montrer plus particulièrement avec 1 Corinthiens 13. Parce que quand il est dit que l'amour, c'est pas comme les cymbales qui résonnent, en fait, nous, alors ça ne va pas ajouter grand-chose à la signification, mais en fait, ça ne veut pas dire exactement ce que nous, on comprend le lisant comme ça. Donc je reviens quand même sur mon introduction. Donc ces prêtresses, autre chose. Les prostituées à l'époque, et donc les prostituées sacrées, avaient les cheveux rasés. Ça commence à vous parler par rapport à 1 Corinthiens 11, par exemple ? Le voile, les cheveux longs, le machin, voilà. Donc, si vous voulez, voilà, lui, il s'adresse à cette ville-là. Il s'adresse à une église qui est là-dedans, et qui, en l'occurrence, n'est, on le comprend dans la première lettre, un petit peu moins dans la seconde, mais quand même dans la seconde, c'est... Enfin, il écrit parce que, justement, il y a encore des problèmes. Donc, en plus, cette église-là, du coup, manifestement, même si lui est très élogieux, notamment au début de 1 Corinthiens, enfin, très élogieux, très positif, du moins, ce qu'on en comprend avec nos yeux en lisant 1 Corinthiens, c'est que ce n'est pas une église qui transpire la piété. C'est quand même du patachon, ce qu'on comprend, ce qui se passe dans l'église. Vous voyez ? Donc... Après, pour vous donner un peu l'état moral de la ville de Corinthe, là, je ne parle pas forcément de l'Église, il y avait un terme qui était utilisé en grec à l'époque qui voulait dire « corinthiser ». Et « corinthiser », ça signifiait dans tout le monde antique « mener une vie dépravée ». Donc ça veut dire que dans cette ville-là, apparemment, la dépravation, les désordres sexuels, etc., ça devait être... plus grossier, plus évident, plus courant, je ne sais pas quoi, que dans d'autres endroits du bassin méditerranéen et de l'Empire romain. Donc voilà où est-ce qu'il écrit, le gars. Et surtout, où il écrit et dans quel contexte il écrit. Vous voyez ? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête pour comprendre pourquoi est-ce que derrière, voilà, il y a un peu des choses à faire. Parce qu'une chose, par rapport aux cheveux, etc., bon, on le verra peut-être tout à l'heure si on a le temps, si vous lisez bien Corinthiens 11, où justement il va parler de la longueur des cheveux des femmes, machin, etc., il parle aussi du fait que, et il commence par ça, du fait que l'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Pareil, ok, misogynie, ça. Non. Je lis ma Bible, il est simplement en train de redire, et d'ailleurs, il explique lui-même, dans le même passage, ou à d'autres endroits, il est simplement en train de réexpliquer ce que vous lisez en Genèse, quoi. Dieu a créé d'abord l'homme, de l'homme, il a fait la femme, et comme il le dit dans 1 Corinthiens 11, l'homme est issu de la femme, en fait, tout est une boucle, et tout vient de Dieu. Donc, je veux dire, voilà, faut pas sortir juste les versets d'un côté et dire, oh là, mais ça, c'est scandaleux, parce que c'est sûr que, tout comme lui, il écrit dans un contexte qui est celui-là, nous, on lit en comprenant les choses avec notre contexte à nous, 20e siècle, 21e siècle, comment ça s'appelle, mai 68, libération des mœurs, pas de mariage, concubinage, parité, machin, truc, ceci, cela. Et nous, on le lit avec notre contexte à nous. Sauf qu'on a besoin de comprendre c'est quoi son contexte à lui. Et à comprendre, un tant soit peu, ce que dit la Bible, par contre, aussi. Alors, donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc l'église de Corinthe a été fondée par Paul en 51 après Jésus-Christ. Alors apparemment, ça a été attesté par une pierre qui a été découverte en 1905, qui s'appelle la pierre de Delphes. Qui assigne cette date au proconsulat de Gallion. Bon, voilà, enfin, je vous donne les informations, vous notez si vous voulez, mais c'est comme moi, vous ne les retiendrez pas non plus. Et donc, Paul, pour évangéliser cette ville, en fait, il a fait, comme il a fait partout où il est allé, il a commencé par aller dans les synagogues et ensuite sur les places publiques. Donc c'est quand il a évangélisé cette ville et qu'il a démarré l'église à Corinthe qu'il a rencontré Aquilas et Priscille et où justement donc il était un fabricant de tentes et eux également et donc c'est par ce biais-là qu'il les a rencontrés qui se sont manifestement convertis etc. Donc, où est-ce qu'elle a été écrite, la lettre ? Paul est parti de Corinthe pour Antioche et Jérusalem, puis il s'est remis en route pour son troisième voyage missionnaire qu'il a mené d'abord à Éphèse, et c'est de là qu'il envoie cette épître. Donc, il envoie apparemment de Éphèse cette lettre. Et donc, il l'écrit notamment parce qu'il reçoit des nouvelles qui ne sont pas géniales du tout. Donc, oui, donc Paul, il est resté donc 2 ans à Éphèse, et ça serait sur la fin de son séjour que donc il a envoyé cette lettre à Corinthe pour redresser certaines choses. Et donc les grands spécialistes estiment que donc lui, il a fondé l'Église, on va dire en 51, on va dire après Jésus-Christ, et donc il écrit cette lettre en 56, au printemps 56, d'après ce que disent les gens qui savent tout. Non, pas qu'ils sachent tout, mais qui ont fouillé des choses que nous, on n'a pas le temps de fouiller. Et peut-être pas la capacité non plus. Donc, cette lettre, en fait, c'est quoi le sujet un peu général ? La lettre, elle contient en fait la réaction de l'apôtre Paul aux nouvelles apportées par les gens de Chloé. Donc, c'est ce qu'il dit au début du chapitre. Oui, c'est ça, indice. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir. Voilà, c'est ça, verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, etc., etc. Donc, il a reçu des nouvelles et il réagit. Alors, ce qui est intéressant, pardon, dans cette lettre, cette lettre, elle est là pour déjà pour répondre à un certain nombre de problèmes qu'il y a dans l'Église, dont il est averti. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, voilà, il va parler des divisions dans l'Église. Il va parler de problèmes de péché particulier. Donc il y en a un qui couche avec sa belle-mère. Il va parler du fait que pendant la Sainte-Cène, il y en a qui sont ivres, pendant que d'autres, ils n'ont pas mangé. Alors, est-ce qu'il est dans les termes, est-ce que c'est une manière de parler et qu'il exagère? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas, mais probablement pas. D'ailleurs, il devait certainement être sous. Est-ce que les autres, ils n'avaient réellement pas mangé? J'en sais rien. Mais en tout cas, lui, ce qu'il veut dire, et parce qu'à l'époque, quand il prenait la Sainte-Cène, ce n'était pas comme nous, on fait le culte, on passe un bout de pain et un bout de jus de raisin. C'était l'occasion de faire une agape, de manger ensemble. Donc lui, qu'est-ce qu'il est en train de critiquer? C'est que finalement, l'idée, c'est on mange ensemble et on va partager le pain et le jus de raisin. Donc voilà, le corps et le sang de Christ. Et mais en fait, c'est quoi? C'est manifester le fait que nous sommes la même pâte, nous sommes au bénéfice du même sang, et que donc nous sommes une communauté ensemble, et en fait, nous sommes un. Et par conséquent, c'est pour ça qu'ils mangent ensemble pour prendre ce que nous, on appelle la scène. Et là-dedans, en fait, les différenciations sociales, elles sont hyper manifestes, parce qu'en fait, les gens, ils viennent plus pour manger que pour vivre la communion, finalement. Donc celui qui est riche, il a, celui qui n'a pas, il n'a pas. Et finalement, il y en a qui boivent, et puis au bout d'un moment, ils sont sous. Enfin, voilà. Et donc, il explique ce genre de désordre. Il explique, donc, effectivement, il traite aussi, donc, les histoires de mariage et de remariage et de ceci. Et donc, si t'es marié avec quelqu'un avant de te convertir, est-ce que tu dois le virer? Non, tu ne dois pas le virer. Mais si lui veut partir, ben, tu le laisses partir. Enfin, voilà, il va traiter un peu toutes ces choses-là. Et manifestement, on comprend bien qu'il y a des questions qui lui ont été posées, justement par rapport au mariage. Il dit, voilà, est-ce qu'on doit se marier tout? Et c'est très intéressant aussi dans la manière de répondre de Paul. Alors, c'est d'autant plus intéressant que c'est la Bible, donc c'est la parole de Dieu. Mais en fait, dans la parole de Dieu, lui, à un moment donné, sur certains points, il dit, non pas le Seigneur, mais moi, je dis. Donc là, c'est pareil, c'est la Bible. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non pas le Seigneur, mais moi je dis. Donc, c'est l'avis de l'expérience d'un homme de Dieu. Voilà. Même si c'est dans la Bible, c'est pas Dieu a dit. Il le dit lui-même. Donc c'est pareil, prenons-le comme on doit le prendre. Tout comme, je veux dire, la Bible, c'est la parole de Dieu dans son ensemble, mais je suis désolé, il n'y a pas la même, comment on pourrait dire, c'est juste une manière de parler, mais je veux dire, vous n'avez pas la même intensité de ce que Dieu a à dire à chacun de manière égale dans tous les versets de la Bible. Alors, je vous prends l'exemple le plus idiot qui soit. Quand vous avez une généalogie, ça va vous parler beaucoup moins qu'un livre, une lettre de doctrine. C'est évident. C'est évident. Mais des fois, on est buté, quoi. Je veux dire, c'est... Non, mais attends, c'est la parole de Dieu. Oui, mais c'est la parole de Dieu. Toi, tu es en train de m'expliquer que c'est la parole de Dieu dans le sens que c'est sacré, tu sais, comme dans d'autres religions. C'est sacré. Ah, tu sais, c'est comme le pain, il ne faut pas qu'il soit posé à l'envers. L'échelle, il ne faut pas passer dessous. Le chat noir, il ne faut pas qu'il soit là. Enfin, etc. Vous voyez? Donc, mais la parole de Dieu, c'est sacré, mais pas dans ce sens magique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dans ce sens magique. C'est sacré parce que oui, c'est Dieu qui parle et qui a quelque chose à nous dire. Mais après, soyons intelligents. Elle doit être comprise intelligemment. Et intelligemment, c'est quoi? Ben, c'est que dans une généalogie, je suis désolé, je pourrais la lire 500 fois dans ma vie, je ne vais pas en tirer ce que je vais tirer de l'Épître aux Romains. C'est sûr, c'est sûr. C'est la parole de Dieu, mais c'est sûr que j'ai peut-être plus besoin de lire 500 fois l'Épître aux Romains qu'une généalogie en chronique. Je peux vous l'assurer. Et ce n'est pas un blasphème de le dire. Donc, tout ça pour expliquer ce que j'expliquais. Autre chose donc, il traite effectivement peut-être d'un... Comment on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire conduite? On va dire en tout cas d'une place de la femme dans l'Église qui n'était certainement pas correcte. selon les Écritures, et qui était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certainement la résultante du fait que, ben, dans l'Église, l'Église elle se retrouve empreinte de ce qui l'environne, en fait. Mais tout comme nous. À un degré ou à un autre, je veux dire. Alors, eux, c'était peut-être un peu visible, hein. Plus visible qu'à d'autres endroits, ou plus, peut-être plus visible que chez nous, j'en sais rien, vous voyez. Mais voilà, il va parler du parler en langue, effectivement, des dons de l'esprit. Et c'est intéressant, parce que justement, il va en parler sur le fond des dons de l'esprit, et là où il parle donc du parler en langue, de nos langues, machin, tout ça, il va traiter la chose sous trois points. Un, c'est les dons spirituels. Deux, c'est comment ces choses-là doivent être exercées dans le culte de l'Église. Et troisièmement, il en parle en 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 13, et pas 13, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Et en fait, il fait exprès de mettre au milieu 1 Corinthiens 13, qui est dans le sujet des dons dont il est en train de parler, mais qui est en train d'être le point d'orgue par rapport à son explication sur les dons de l'esprit, notamment du don de langue ou du présumé dans nos langues. Vous comprenez? Donc, très intéressant la manière dont il s'y prend. Évidemment, tous les sujets de doctrine ne sont pas abordés dans Corinthiens. Néanmoins, c'est peut-être l'endroit le plus clair où il est parlé de la doctrine de la résurrection. C'est en 1 Corinthiens, chapitre 15. Les résurrections corporelles, résurrections, etc. Même si là, il y a aussi un verset qui jette un peu le trouble. C'est celui où il dit pourquoi est-ce qu'on baptise les morts. Donc la question que certains vont dire, c'est ben alors, qu'est-ce qu'il fait? Il faut quoi? Il faut baptiser les morts? Non, je pense qu'il est dans une rhétorique pour expliquer le fait que s'il n'y a pas de résurrection, il y a des choses qui sont inutiles. Et je pense qu'il s'appuie sur une pratique peut-être qu'il se faisait là ou autour. Je sais, peut-être qu'il parlait, ça c'est moi qui dis, peut-être qu'il parlait même pas de ce qui se faisait dans l'Église. Peut-être qu'il parlait même de se faire baptiser pour les morts, peut-être dans les cultes païens, j'en sais rien. Et je pense qu'il utilise ça dans une rhétorique pour montrer que, voilà, s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi on fait certaines choses? Mais en fait, il n'est pas en train de parler du bien fondé ou pas de la chose. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où il est parlé de cette histoire de baptême de mort. Donc ça veut dire que c'est d'abord pas du tout une doctrine et que j'ai aucun élément pour pouvoir développer ou comprendre de quoi on parle. Donc moi, je suis plus enclin à penser que c'est simplement une manière de parler pour expliquer que voilà, il y a bien une résurrection alors que certains croient qu'il n'y en a pas. Et entre autres preuves, parce qu'il ne dit pas que ça, ben vous voyez bien que voilà, s'il y en a qui se font baptiser pour les morts, je ne suis pas en train de parler est-ce que c'est bien ou pas bien, ou vrai ou faux, c'est bien qu'ils pensent qu'il y a une résurrection des morts, et moi je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est comme ça que je me le comprends. Et de toute façon, si on veut comprendre autre chose à part ce verset là on n'a aucun élément pour étayer quoi que ce soit dans ce sens là dans le sens de se faire baptiser pour des gens qui seraient morts, dans quel but, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Donc, OK, ça, c'est pas mal. Bon, après, il y aurait d'autres choses. C'est bon, on va abréger à ce niveau-là. Et... Donc, alors, ici, ici, toi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Ben écoutez, on va lire quelques petites choses et puis on va voir, parce qu'il y a aussi des choses. Alors oui, donc j'ai dit oui, la doctrine de la résurrection, oui. De manière, oui, je crois que c'est pareil. On peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'autre endroit où Paul, dans ses lettres, parle de manière claire, si on peut parler ça comme étant clair, du tribunal de Christ. Il y fait allusion à d'autres endroits, mais là, en 1 Corinthiens 3, je ne vais pas dire que c'est hyper clair, mais en tout cas, c'est l'endroit où c'est finalement le plus clair où il en parle. Oui, je ne me trompe pas, c'est 1 Corinthiens 3, oui, je crois. me semble. Oui, c'est ça, à partir du verset 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, ou en tout cas la récompense qu'il aurait pu avoir. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas, vous êtes au temple de... Donc là, je dirais que c'est peut-être le passage qui parle, si on peut dire, de la manière peut-être la plus claire de ce qu'est le tribunal de Christ, même si ça reste évidemment en des termes allégoriques, puisque les récompenses que vous allez amener au ciel, je pense, ça ne sera pas des lingots d'or, des diamants, etc. Donc c'est bien pour vous montrer plutôt la valeur des choses. Mais dans l'image, qui est intéressante, c'est qu'il parle justement de métaux précieux d'un côté et de bois et de dérivés du bois de l'autre. Ce qui fait qu'à travers un feu, qu'est-ce qui va rester ? Et forcément les métaux précieux. Alors que le bois, le chaume, le foin, ben évidemment, vous comprenez bien qu'il va en rester rien du tout. Donc voilà. Donc c'est évidemment une manière imagée de faire comprendre les choses et aussi donner de la valeur. Est-ce qu'il y avait un autre sujet ? Non. Donc voilà, on va rentrer dans certains petits passages vite fait. On va aller très vite, parce que je pense qu'on va aller très vite, voire même on ira très vite. 1 Corinthiens 2, 10. Oui, donc verset 9. Donc, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, oui, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc tout ça, c'est très compréhensible. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Le mot ici animal, c'est psychikos, c'est-à-dire c'est l'homme qui vit dans son âme, en fait. Et ici, c'est l'homme qui est irrégénéré, qui est non-croyant. Donc l'homme animal, c'est psychikos, celui qui est dans l'âme, c'est l'homme qui est non-croyant. Et c'est pourquoi je vais vous dire ça, parce que vous allez voir, il y a d'autres termes qui sont utilisés après et qui sont importants de savoir, même si en général on les sait, mais de savoir dans la Bible pour faire du tri avec des interprétations des fois. Donc, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est pneumatikos, de pneuma, esprit, au contraire, juge de tout, il n'est jugé par personne. Donc ça, c'est intéressant, parce que l'homme spirituel, il juge de tout. Il ne juge pas tous, il juge de tout. Donc ça veut dire que vis-à-vis de toute personne, je peux juger de tout dans la vie des gens, mais je juge de tout, je ne juge pas de tous. Ce n'est pas la personne que je juge. C'est peut-être ce qu'elle vit, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle dit, selon la parole de Dieu, parce que j'ai du discernement spirituel à cause de la parole de Dieu. Mais après, à moi à faire attention d'être en jugement de ce qui se vit, peut-être pour avoir un enseignement pour moi et pour me garder moi, et non pas de juger la personne. Parce qu'en fait, quand on juge une personne, c'est pour arriver à une condamnation ou à l'arrivée à un verdict. Or, le verdict, ce n'est pas nous qui le donnons. Premièrement, le verdict pour tous, il a été donné à la croix. Et pendant ce temps de grâce, il est là, ce temps de grâce, pour que chacun puisse se mettre du bon côté du verdict que Dieu a donné sur la croix de Jésus-Christ, pour tous. Et à la fin du temps qui est révolu, qui est donc de cette vie des gens, c'est Dieu qui juge. puisque les gens n'ont pas voulu être jugés au bénéfice de la croix, du verdict sur la croix, ils seront jugés selon d'autres modalités, qui vont être leurs œuvres, leurs péchés, leur chair, leur tout ce que vous voulez. Et là, je parle des non-croyants, évidemment. Donc, l'homme animal ne soit pas ni. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Ben, évidemment, personne. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Donc, personne ne l'a connue, et pourtant, nous l'avons. Pourquoi ? Parce que ça nous a été donné. Chapitre 3, pour moi, frère, et là, c'est très, très important. Donc, on a vu psychikos, l'homme animal, en fait, irrégénéré, non sauvé, qui n'a pas accès aux choses de Dieu, qui ne les comprend pas. Pneumatikos, l'homme spirituel, en fait, ce à quoi nous sommes appelés, enfin, ce que nous sommes appelés à vivre plutôt, mais ce que nous sommes. Et donc ici, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, il s'adresse à une église, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Là, les deux fois, à chaque fois qu'il utilise un terme charnel, en grec, c'est sarkikos. S-A-R-K-I-K-O-S. S-A-R-K-I-K-O-S. Sarkikos, qui vient de sarx, qui est la chair, en fait, en grec. Donc, ça veut dire que là, il s'adresse à des croyants qui devraient être des pneumatikos et qui, en fait, manifestement, sont des sarkikos, c'est-à-dire des charnels. En fait, ce sont des pneumatikos qui vivent comme des psychikos, pour le faire simple. Et donc ça, c'est la réalité de ce que nous vivons. C'est-à-dire que nous sommes en position des pneumatikos, nous sommes appelés à vivre des pneumatikos, nous ne sommes plus des psychikos, mais en fait, la réalité, c'est que nous expérimentons souvent, malheureusement, ou trop souvent, le psychikos. Et du coup, ça s'appelle du sarkikos. Mais sarkikos n'est pas psychikos. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, sarkikos, il est sauvé. Alors que psychikos, il n'est pas sauvé. Parce que sarkikos, il devrait être pneumatikos. Ça va ? Pas trop ? Alors, trois termes. Pneuma, c'est l'esprit. Donc, pneumatikos. Ici, pneumatikos. Qui a donné pneumatique. Mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce que pneuma, c'est l'esprit, c'est de l'air. Et qu'est-ce qu'on met dans un pneumatique ? On met de l'air. Pneumatikos, ça, c'est OK. Ça, c'est l'esprit, les enfants. Voilà. Ensuite, vous avez... je le fais comme ça. Ça, c'est psy en grec. Psychikos, je le transcris. Psychikos. Ça, c'est l'âme. Et en fait, celui qui vit dans l'âme... Il est perdu. OK ? C'est l'animal. C'est l'homme animal. Et qui, du coup, en fait, alors qu'il est un homme, il fonctionne comme un animal, pour le coup. Et ensuite, le troisième, il s'appelle sarkikos. Et sarkikos, en fait, c'est ce que nous, on expérimente. D'accord ? Donc, en fait, le sarkikos, c'est donc le charnel. Mais le charnel, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est spirituel en position dans ce que Dieu lui a acquis, d'accord, mais qui dans sa pratique il est animal, il vit dans son âme, il vit selon le principe de la chair, vous comprenez? Voilà, j'ai fait un joli dessin, je suis content. Voilà. C'est un peu plus, voilà, décortiqué. Et donc, pourquoi je vous lis ça ? Parce qu'en fait, ces trois termes grecs, on les a ici, et c'est très clair. C'est une réalité de la vie chrétienne et de la vie tout court qui est très claire là. Et là, c'est très clair. Donc, si c'est très clair là, je prends ça, et ensuite, je l'applique ailleurs quand il y a des versets qui semblent vouloir dire des choses autres. Dixit, la perte du salut. Dixit, des choses comme ça, vous comprenez ? Ah, ça semble vouloir dire qu'on va perdre le salut. Ouais, mais... Pourtant, là, très clairement, ça, c'est le schéma de la vie. Et du coup, dans le schéma de la vie, ton verset qui semble dire que tu vas perdre ton salut, en fait, ça ne signifie pas que tu le perds, ton salut. Ça signifie que tu devrais vivre là et qu'en fait, tu es en train d'expérimenter ça. Et quand tu expérimentes ça, tu es dans ton verset qui te pose un problème. Et quand tu expérimentes ça, en fait, expérimentalement, dans le comportement, dans le quotidien de la vie, si vous voulez, il n'y a pas de différence entre eux deux. Il n'y a pas de différence entre le sarkikos et le psychikos dans ce qu'ils pratiquent. Et en fait, plutôt dans ce qu'ils vivent ponctuellement, je veux dire. Parce que finalement, celui qui est psychikos, qui est perdu, lui, il pratique. Et le sarkikos, c'est un croyant qui, lui, ne pratique pas, mais qui, ponctuellement, va faire la même chose que l'autre. Du coup, la différence, si on veut essayer de discerner, c'est dans la pratique. C'est ce qu'on voit, et qu'on verra, on en reparlera, dans notamment les deux premières lettres de l'apôtre Jean. Puisqu'il est dit, oui, c'est lui qui dit, en fait, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est bon, c'est fini, on peut tous vous enterrer, là ? Pris comme ça, on va tous se vendre. Sauf que pris comme ça, mais compris avec ça, et ouais, la vie de Dieu en moi, effectivement, elle ne pêche pas. Sauf que des fois, je ne fonctionne pas dans la vie de Dieu. Je fonctionne dans mon âme. Je fonctionne dans, bon, je sais pas, ma carne, quoi. Et donc, du coup, je suis celui-là. Et celui-là, eh ben, visuellement, il n'y a pas de différence avec lui. Pourtant, celui-là, il est là. OK, on saisit mieux ? Allez, on avance, on n'a pas le temps. Ah oui, juste vous dire quand même, donc je ne le lis pas parce qu'on n'a pas le temps de lire. Premier chapitre de Corinthiens, c'est très intéressant. Donc, quand on lit tout un Corinthien, donc comme je vous l'ai dit, on voit beaucoup de poubelles. Et quand on lit un Corinthien, je vous laisserai le lire à la maison, c'est clair, net et précis, ce sont des frères, ce sont des croyants, ils sont sauvés, ils ont été sanctifiés par Jésus-Christ, ils ont été lavés, machin, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tout bien. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de quoi ? De commencer son... Avant de leur tirer les oreilles sur les points qu'il y a à traiter, parce qu'il y a quand même des problèmes que tu ne peux pas juste dire c'est bien, tout va bien, et puis voilà, quoi. Il y a quand même des choses à redire. Il leur explique qui ils sont. Parce que finalement, s'il y a tous ces problèmes-là, de toute façon, le point de départ, c'est que eux, comme nous, on n'a pas compris qui on est. Pourquoi je vis sarkikos ? C'est parce que je n'ai pas suffisamment bien compris que je suis pneumatikos. Et après, ben, dans l'entre-deux, il va quand même falloir un petit peu traiter quand même les choses, parce qu'on ne vit pas seul dans une cage enfermée, quoi. On vit dans une société avec des gens, quoi. Et on vit dans l'Église, et on vit dans une société plus grande, etc. Donc ça, voilà, donc, ben, ça, je ne vais pas vous le développer, ce n'est pas grave. Par contre, chose intéressante, on va aller un peu plus loin, par exemple, 1 Corinthiens 5... c'était quoi ça ? Oui, c'est ça. 1 Corinthiens 5, donc alors, là, on est en plein dedans, là, les deux pieds dans la boue. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alors là, quand même, c'est intéressant, parce que quand je vous ai fait le tableau de Corinthe, déjà, Corinthe, dans le monde, c'est pire qu'ailleurs. Et là, on est en train de dire que dans l'Église à Corinthe, c'est pire que dans le monde à Corinthe. Donc, vous imaginez bien qu'après, quand vous trouvez qu'il est un peu sévère avec les femmes, la Sainte-Seine, là, on va voir l'autre, il faut le livrer à Satan, machin, tout ça. Ouais, mais attends, t'as vu dans quel zoo il est tombé, le gars ? C'est folklore, quoi. C'est-à-dire, il est oublié... Enfin, d'une certaine manière, il répond aussi un peu à la dimension de ce qu'il a devant lui, en fait. Donc, mais enfin, on continue, parce que c'est ça qui m'intéresse, justement, l'homme livré à Satan. Et vous êtes enflé d'orgueil. Donc, en plus, vous péchez, vous êtes orgueilleux de pécher, c'est super. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc, lui est en train de sous-entendre que celui qui a commis cet acte-là, qui vient de décrire, il aurait dû être, en fait, en gros, viré de l'Église, hein. C'est ce qu'il est en train de dire. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Donc, en fait, c'est bien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'acte qu'il est en train de juger. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et là, ce verset-là, forcément, il pose un problème, parce que ce qu'on semble comprendre d'un premier, on se dit, mais attends, est-ce qu'on est en train de dire qu'un gars dans l'Église il doit être livré à Satan. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre par là? Que le gars, en gros, il est jeté en enfer, quoi. Il est livré à l'enfer, alors. C'est ce qu'il est en train de dire, Paul. Et en fait, il n'est pas en train de dire ça. Alors, juste une chose, si vous faites l'exégèse, vous n'allez pas trouver de subtilité qui va vous faire comprendre autre chose que ce qu'on vient de lire. Hein. Ça, je vous le dis. Donc, ça veut bien dire livré à Satan. Ça ne veut pas dire autre chose. Hein. Ce n'est pas autre chose. Bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a dit au-dessus. Ce qu'il a dit au-dessus, il a dit, verset 2, voilà, c'est ça, à la fin du verset 2, « Et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, ce que vous auriez dû être donc, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. » Donc pour moi, à présent, j'ai déjà jugé, etc. Donc en fait, de quoi il est en train de parler ici ? Livré à Satan, en fait, c'est une expression. Alors apparemment, moi, je n'étais pas là il y a 2000 ans, donc j'en sais rien. Mais il semblerait, il y a certains commentateurs qui disent quand même, que c'était une manière, en fait, de parler de ce qu'on dirait aujourd'hui, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'excommunication. Être excommunié de l'Église. Ce qui corrobore tout à fait ce qu'il dit à la fin du verset 2, au-dessus. Ce qui est tout à fait cohérent. Maintenant, pourquoi cette formule aussi forte ? Parce qu'en fin de compte, ce que l'on voit par ailleurs dans les lettres de Paul, ce qu'on a vu dans le livre des Actes, donc dans cette période un peu particulière, c'est que l'Église de Jésus-Christ, le rassemblement des croyants, c'est un endroit de protection. Et je dirais, ça l'est encore aujourd'hui, et ça doit l'être, et on doit le comprendre ainsi. Et donc, en fait, excommunier quelqu'un, quelque part, c'est le livrer sans défense aux agissements de Satan, quelque part. Puisque, en fait, je lui ferme la porte de l'Église. Donc, il est dehors. Une, il peut être que tenté par le monde. Et, en fait, il est dans la sphère d'agissement préférée du diable. Donc, d'un point de vue étymologique au niveau des mots, il est livré à Satan. Mais, en fait, il n'est pas livré en enfer. Vous voyez ? Donc, en fait, il est mis en dehors de l'Église. Pour un temps. C'est ce qu'on verra, de toute façon, avec l'apôtre Paul. Puisque, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il est en train de dire... si on a été un peu trop fort, tout ça, machin, enfin, je veux dire, voilà, il s'est repenti. Enfin, ne le laissez pas dehors, quoi, en gros. Vous voyez ? Donc, alors, pour, comment dire ? Et le but de cette excommunication, donc se livrer à Satan, c'est que la personne, en fait, elle comprenne, une, qu'elle fait du mal au corps de Christ, et deux, effectivement, qu'elle soit attristée selon l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, elle réalise un peu ce qu'elle fait, quoi. Et donc, elle se positionne. Et en l'occurrence, pour cette personne-là, ce qu'on comprend dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est que, bon, il y a un retour, il y a une chose qui s'arrange. Donc voilà, cette expression « livrée à Satan », en fait, c'est excommunication. Et en même temps, dans les termes, voilà, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que la personne est mise en dehors de l'Église, donc elle est dans la sphère... Où en fait, quelque part, oui, elle est plus protégée par l'Église, comme elle pourrait l'être, des actions du diable. Vous voyez ? Ça a du sens ? Alors, attends, d'accord. Donc là, de toute façon, on va faire du tri parce qu'on n'ira pas au bout. Voilà, alors c'était là. Oui, une autre chose intéressante, chapitre 6. Alors, versets 10 à 20, est-ce qu'on va lire tout ? Ben, ouais, un petit peu, obligé. Peut-être que je vous en lire un petit bout. Attends, oula. Non, je me trompe, là, non ? Non, on va laisser tomber ça. Ne serais-je trompé de chapitre ? Oui, si une chose, par exemple, on va lire quand même, c'est pas ça, mais c'est pas grave, dans le chapitre 6 aussi. Au début du chapitre, les 9 premiers versets. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes, donc les non-croyants, et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Donc là, c'est pareil. Si vous me dites qu'est-ce que ça veut dire, les saints jugeront le monde, c'est le seul endroit, je crois, grosso modo, qui nous en est parlé. Franchement, l'explication, elle n'est pas grande. Hein. Donc, qu'est-ce que ça, à quoi ça va ressembler les saints, nous, nous allons juger le monde? Je ne sais pas trop. Moi, j'aurais tendance à dire, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas sûr forcément que le reste du texte colle avec ce que je dis. Je dirais que le fait que nous, nous avons choisi Christ, c'est d'une certaine manière, ça juge le monde qui, lui, va être séparé de Christ. Mais quand on va lire la suite du passage, ce n'est pas évident du tout que mon explication, elle soit, même si ce que je dis est correct, que ce texte-là veut dire ça. Donc, comment est-ce qu'on va juger le monde? Je ne sais pas. Mais on va juger les anges aussi. Mais bon, voilà. Et donc, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Là encore, je pense qu'il y a une dimension de rhétorique. Parce que le but de toute son explication, c'est de dire, vous avez des différends entre vous, vous allez les traiter devant un tribunal civil. Vous devriez traiter l'affaire entre vous dans l'Église. Et je suis en train de vous dire, vous en êtes capable, pourquoi? Parce que vous allez juger le monde. Voilà. Donc voilà. Après, qu'est-ce que ça veut dire en précision, quoi? Je n'ai pas de grosses explications à vous donner. Quand donc vous avez différents donc, les choses, pour les choses de cette vie, quand vous avez des différents pour les choses de cette vie, donc là, on n'est pas en train de parler d'un meurtre. Hein. Ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles, c'est déjà certes un défaut chez vous. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni tout ça, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, sanctifiés, etc. Donc juste déjà pour la première partie sur l'histoire des procès, le point important, c'est versets 6 et 7, verset 7 surtout, excusez-moi, c'est déjà certains défauts chez vous d'avoir des procès les uns envers les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Et ça, je pense que ça doit être un peu une règle qu'on doit avoir dans notre tête. C'est-à-dire que là, on est en train de parler, comme il l'a dit plus haut, on parle des différends pour les choses de cette vie. Par contre, ne faisons pas comme certaines religions où... alors, je ne sais pas si c'est à partir de ce passage-là qui s'applique, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses dans leur théologie qui les amènent à fonctionner ainsi. Mais je veux dire, quand il y a des crimes graves... Qui ressortent des tribunaux civils, c'est pas à l'Église de traiter. Un meurtre, un vol, de la pédophilie, un viol, c'est pas un homme sage dans l'Église qui va juger entre les frères. Ok? Là, vous allez vers les tribunaux, contrairement à ce que font certaines religions, apparemment. Mais par contre, quand c'est, on va dire, voilà, les choses de la vie. Eh bien, ce qui a pesé, c'est est-ce que c'est si important que ça? Et Paul semble dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si importantes que ça. Donc, souffrez plutôt une forme d'injustice. Vous voyez? Dans les différends les uns avec les autres. S'ils vont vers des tribunaux, c'est que peut-être qu'il y avait, par exemple, je prends un exemple, il peut certainement y avoir d'autres choses, mais peut-être des problèmes d'argent. Il m'a prêté, il ne m'a pas rendu. Donc, au lieu de laisser courir l'affaire et de pardonner mon frère, sachant finalement, quelque part, qui est-ce que j'ai à faire aussi en face, hein, c'est-à-dire que le coup d'après, peut-être que je n'y reprête pas. Aussi. Et ce n'est pas ne pas aimer. C'est simplement ne pas être un imbécile. C'est tout. Mais par contre, je ne vais peut-être pas aller dans un tribunal pour dire l'autre, j'ai prêté 50 euros ou 500 euros, il ne me les a pas rendus, j'ai la preuve que machin... Ok... c'est les choses de la vie, voilà. Peut-être que j'ai été un peu bête, eh bien, je me suis fait avoir, je ne me ferai pas avoir l'autre fois, mais passons, il y a autre chose. Voilà. Par contre, c'est crime, c'est viol, c'est pédophilie, c'est machin, ces trucs. Non, là, c'est pas les choses de la vie, ça. Ça, tu vas devant un tribunal, c'est un tribunal qui s'en occupe, ça. OK ? C'est pas le confessionnat avec le rideau et ça reste là. Et moi, j'ai tellement d'autorité devant Dieu que j'absous, les gars. Hein. J'absous, moi. D'accord ? Ben, absolvez. En ce moment, vous êtes en train de vous faire absoudre aussi. Enfin, bref, peu importe. Donc ça, c'est le point qui est important. Est-ce qu'il y a une autre bricolette ? Bon, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais on va pas s'arrêter. Ah oui, non, si, excusez-moi, je vais rester sur 6 et je vais finir là-dessus rapidement. La fin de ce qu'on a lu ici. Donc là, il y a les procédures. Et ensuite, intéressant, la suite de, finalement, vous avez des broutilles, vous allez les régler là où il ne faut pas, il vaudrait mieux que vous souffriez quelque injustice. La suite est sans transition, comme ils disent à la télévision, c'est ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Efféminés, ça veut parler aussi d'homosexuels, hein. Pas juste de tendance à mettre un peu de rose quand on devrait mettre du bleu. Hein. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, donc ceux qui aiment bien l'argent, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il y en a qui ont voulu adoucir le truc en disant ben, « n'auront d'héritage dans le royaume de Dieu ». Non, non, ça veut dire qu'ils vont en enfer. Ça ne veut pas dire autre chose, « n'hériteront pas le royaume de Dieu ». Vous le tournez comme vous voulez, voilà, ça ne veut pas dire autre chose. Et alors, c'est très intéressant, parce que là, il est en train de leur dire à eux ça, en partant d'un dilemme de broutille où vous ne réagissez pas d'une manière pneumaticos. Hein ? Et qu'est-ce qu'il dit derrière ? Et c'est là où c'est tout intéressant avec l'apôtre Paul, c'est qu'en fait, d'un côté, il dit, en fait, voilà, quand vous pratiquez ça, en fait, vous êtes dans toute cette liste qui, en fait, va en enfer. Ben attends, c'est en train de dire, je vais en enfer. Et lui, il est en train de dire, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, en fait, il est en train de dire, non, non, normalement, vous êtes des sauvés, sauf que votre comportement, il est dans la liste. Et en fait, ce que mérite cette liste, c'est d'aller en enfer. Et c'est ce que vous méritiez. Maintenant, après, si vous, tout seul dans votre chambre, vous réalisez que parce que vous pratiquez les 9 premiers versets de 1 Corinthiens 6, en fait, finalement, vous êtes dans la liste de 10 et 11 et que finalement, vous n'avez jamais vécu le verset 11, ça, c'est à vous à voir devant Dieu. Mais moi, en généralité, je suis en train de parler à une église. Je pense que vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié. Donc, je ne suis pas en train de remettre votre salut en cause. Je suis en train de critiquer l'acte. Et je vous montre à quel point l'acte, il est important aux yeux de Dieu. Et après, si vous, personnellement, tout seul dans votre coin, devant personne, vous devez remettre en cause des choses fondamentales, ça, moi, je n'en parle pas. J'écris ma lettre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, le verset clé pour expliquer le tout, c'est le verset 11. Vous avez été lavé, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et après, je peux comprendre le reste. Et ne cherchons pas à édulcorer le « n'auront pas d'héritage dans le… » Non, 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 je suis en train de dire que… Et du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ceux qui pratiquent de telles choses de manière… voilà, c'est le mode de vie, et ça ne change pas, et ça n'a jamais changé, et ça ne changera jamais… n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais ceux qui ponctuellement, ben oui, des fois t'es cupide, des fois t'as peut-être volé dans une certaine mesure, des fois t'as vécu un truc dans l'impudicité, ou le machin c'est la boisson, ou c'était l'addiction, ou c'est je sais pas quoi. Oui, mais est-ce que c'est, en fait, hein, ce qu'il est en train de dire Paul, c'est est-ce que c'est ce que tu es, ou est-ce que c'est ce que tu pratiques des fois? Vous voyez ? Parce que si c'est ce que tu pratiques des fois, tu as été lavé, justifié, sanctifié, etc. Si c'est ce que tu es, le résultat de ce que tu es, c'est que tu n'hérites pas le royaume de Dieu. Mais moi, je ne suis pas en train de dire que tu n'hérites pas le royaume de Dieu. Je suis en train de partir d'un comportement, de donner un résultat. Mais ce que je crois, c'est le meilleur, et c'est ce que dit Paul à la fin, au verset 11. Mais c'est ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavé, sanctifié, ta-ta-ta-ta-ta-ta. OK ? Et pourquoi il dit c'est ce que vous étiez, certains d'entre vous ? Parce que si ça se pratique encore, c'est parce que, en fait, vous êtes issus du contexte que j'ai donné au départ, où c'était monnaie courante. Et donc, vous continuez peut-être encore à pratiquer des choses que vous pratiquez. Mais ce n'est plus vous, en principe. Mais à vous d'enlever le « en principe ». Non, mais dans votre conscience devant Dieu, c'est ça qu'il veut dire, en fait. Oui. Donc, ce soir, on a fini. Nous n'avons pas réussi. Donc, on continuera la semaine prochaine.